ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir chers auditeurs.
Bonsoir chères auditrices.
Et bienvenue dans Cours d'honneur, la meilleure émission de Radio Sorbonne Université.
La joyeuse bande de la première radio étudiante de la 9e plus vieille fac de France est de retour.
Oui, c'est officiel.
Nous avons relégué Thomas au rang de régisseur.
Salaud. Ce soir, c'est toi, ma chère Lodine.
Accompagnée de toi, mon cher Abel, qui allons présenter cette émission.
Donc pas de panique, n'éteignez pas votre radio. Ce soir, on vous promet une émission plus qu'à la hauteur.
Avec du rire.
Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire.
J'espère pas.
Non.
Mais aussi des débats poignants.
Le RPR, l'UDF, le PS et le PC.
Et de la poésie, bien sûr.
Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, ça son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Ensemble, nous répondrons à la question.
Être étudiant à la Sorbonne, c'est quoi?
Dis-moi, Lodine, qui nous accompagne pour cette émission?
Très bonne question, Abel. Aujourd'hui, autour du plateau, nous avons Marine. Marine, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir?
Bonsoir à tous. Eh bien, comme j'ai pris l'habitude, j'ai préparé rien, absolument rien.
Et c'est ça qu'on aime.
Mais aussi Mélina.
Bonsoir. Alors ce soir, je reçois le collectif Ursula Utopia.
Super.
Nous avons aussi Louane.
Bonsoir Nodine, bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler de Richelieu parce que j'ai découvert que c'était plus qu'un amphi à la Sorbonne.
Richelieu, un grand homme, mais aussi Maëlys.
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai parlé de la meilleure fête de l'année, c'est-à-dire Noël.
Mais oui, on est tous d'accord sur ça. Et enfin, Victoire.
Bonsoir, aujourd'hui j'interviewe le professeur Lucien Belli à la Sorbonne, évidemment.
J'ai hâte. Et le petit nouveau à la régie qui passe ses journées en vacances dans le sud, en nous faisant croire qu'il travaille, Thomas.
Mais oui, ça m'arrive parfois de travailler, je vous ai dégoté le premier livre imprimé en France, c'était bien sûr à la Sorbonne.
Bref, une sacrée équipe pour une sacrée émission.
Un mercredi sur deux et en direct un vendredi par mois.
Saison 3, épisode 3.
Revoici la bande à cours d'honneur. Et pour bien démarrer ce soir,
voici l'édito, la carte blanche de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, je suis vraiment ici.
Carte blanche.
Alors, avez-vous commencé à préparer vos cadeaux de Noël? Qu'est-ce que vous avez demandé?
Maëlys vous fait cadeau de ses meilleurs conseils pour passer un merveilleux Noël.
Et oui, effectivement, nous sommes officiellement en novembre. Et qui dit l'hiver, le froid et les décos, c'est bientôt Noël. Et oui, c'est enfin la saison, dans 5 vendredis précisément, c'est le retour des cris à Noël en repas de famille et les cadeaux qu'on n'a même pas demandé sous le sapin. Alors pour commencer cette saison, voici 5 incontournables pour bien préparer le Noël parfait, digne d'un bon vieux film télé. Enfin. En parlant de film, le premier diffusé cette année était le 15 octobre, soit 75 jours avant la date et avant Halloween. C'est le retour des films bien clichés où Sophie, une écrivaine, doit envoyer son manuscrit avant le 31 décembre, mais elle est trop occupée à mater son beau voisin de ses parents qui est très barbu, avec plein de tatouages qui ne fêtent pas Noël et qui en plus est bûcheron. Pour regarder un film, quoi de mieux qu'un bon vieux chocolat chaud et non de l'alcool pour les étudiants qui veulent oublier les parcelles d'après Noël? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour être chaud, car apparemment les propriétaires d'immeubles ont oublié quel temps il faisait car je n'ai toujours pas de chauffage dans mon appart, on sort les gros pilou-pilou Stitch ou Mickey, un incontournable à la garde-robe. Pensez-y les étudiants, ça coûte cher le chauffage, alors vaut mieux mettre 3 couches de vêtements. Et voilà que Paris tente de se transformer en marché de Noël géant avant l'heure, avec son immense arbre de Noël aux Galeries Lafayette Haussmann dans le 9e arrondissement. Sachez que je n'y suis jamais allée car le sapin coûte littéralement le prix des tableaux à la Sorbonne-Mère et personne ne veut pleurer ici. Pour finir dans la joie, c'est aussi le moment de se goinfrer ou de se maquiller. Allez chercher vos plus beaux calendriers de l'Avent chez Kinder ou Sephora et maintenant patientez. Et c'est la fin, n'oubliez pas non plus, chers étudiants, que Noël c'est cool, mais réviser c'est bien aussi, et être étudiant à la Sorbonne veut dire aussi réviser, même en ouvrant ses cadeaux de Noël.
Vous avez compris, pas de pause, on révise, et j'avais une question pour vous, évidemment ne spoilez pas, je pense que Thomas croit encore au Père Noël, mais vos cadeaux, vous les ouvrez le 24 au soir ou le 25 au matin?
Le 25 au matin.
Ouais, on est d'accord.
Le 25 au matin, tout le monde 25
au
matin.
Moi, je les ai toujours ouverts le 24 au soir.
Le 24 au soir,
évidemment.
Ouais.
Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours entendu cette histoire-là à minuit ou un truc comme ça. Il y a le Père Noël qui passe et donc vous avez les cadeaux.
Bah, moi, le Père Noël, il passait pendant la messe, avant le dîner, et quand on rentrait, il y avait les cadeaux.
Et c'est la magie du petit Jésus. Bon, en tout cas, Thomas, le Père Noël passa cette année, c'était sage.
Ah, chouette, tu me prépares un truc?
Oui.
Et dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Être étudiant, ça coûte la peau des fesses. La chambre de bonne à 700 boules, les pâtes chez Monop à 20 balles, même le prix du métro a augmenté.
Alors, nombreux sont les étudiants à avoir un petit boulot. Mais est-ce que vous trouvez que vous êtes suffisamment payé pour votre job étudiant ? On vous a posé la question.
Un étudiant ne devrait pas avoir à travailler dans un truc qui ne correspond pas à son parcours, je pense. Et je pense que c'est mieux s'il fait un travail qui n'est pas pour survivre, mais juste pour s'épanouir. Quoi.
Dès le début, je savais qu'il fallait que je ne fasse pas beaucoup d'heures et que ça ne soit pas un obstacle, parce que bah, j'avais vu qu'il y a plein d'étudiants qui se font embrigader dans un job étudiant et qui, au final, abandonnent leurs études et même finissent par faire leur voie professionnelle là-dedans, alors que ce n'était pas le plan de base.
Non, je pense que ce n'est pas assez payé, parce que... Je veux dire, moi, du coup, dans les périodes où j'ai bossé, je bossais vraiment presque à temps plein. Et ça me permettait d'avoir un salaire, mais qui m'aidait pour des trucs qui étaient complètement annexes et pas du tout principaux dans une vie d'étudiant.
Bah, en vrai, c'est chaud de ouf. Hein. J'ai peu de temps pour bosser. Les jours où je bosse pas, c'est des jours où je suis en cours ici dans les amphis pour le contenu, pour préparer le concours. Et donc, j'ai les samedis, les dimanches et les soirs pour moi.
Mais oui, bon, ça prend son petit temps quand même. Hein. Il faut le prendre. C'est toujours embêtant de se dire que tu es en train de travailler pour manger alors que tu pourrais travailler pour avoir le concours, mais bon, ça c'est la vie.
L'année dernière, c'était assez compliqué de s'organiser avec les heures de babysitting parce que je travaille de nuit du coup, et du coup, c'est compliqué de revenir le lendemain en cours et d'avoir la tête dans les études.
Après, c'est bon, ce qu'on appelle bien vivre. Hein. Je vais pas partir à Saint-Tropez cet été, mais, mais bon, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Hein. Ça met des livres dans les bibliothèques aussi, donc ça va. Moi, je trouve que c'est honnête.
Et vous, autour de la table, alors, est-ce que vous avez un job étudiant à côté? Comment ça se passe?
Oui, Mélina.
Obligé, mais après j'ai beaucoup de chance parce que je vends du vin, donc je suis c'est quand vrai. Même
Attendez, mais qui a un job étudiant comme ça en fait?
C'est très original, mais oui, il faut travailler, et malheureusement c'est pas mon cas, mais c'est quand même la première cause d'échec le fait que les étudiants doivent travailler à côté, donc même si je suis très heureuse de faire ce boulot, ce serait bien que je le fasse pas.
Et si vous pensez que un job étudiant, ça pourrait vous faire arrêter vos études, si vous en avez déjà? Oui.
Moi personnellement, je travaille l'été.
Ok.
Ça va, quoi.
C'est les vacances.
Mais je sais que je suis un peu tentée parfois de me dire vas-y, j'arrête les études et je vais taffer là. Je pourrais être prise en CDI. Et voilà. Parce que c'est un peu la solution de facilité. T'es payé pour le coup, contrairement aux études où t'es pas payé.
Eh oui. Oui, mais...
En vrai, personnellement, je fais du babysitting aussi, jusqu'à 22h tous les soirs, et je suis payée à même pas pouvoir faire un plein de mon frigo. Donc vraiment très peu. Et pareil, j'ai travaillé cet été à la chaîne, à 40 heures, je commençais à 4 heures du matin, j'ai été payée 600 euros, en étant majeure en plus de ça. Donc vraiment une catastrophe.
Donc comment ça, t'étais payée moins que le SMIC?
Oui, parce que même les employés étaient payés moins que le SMIC. C'était payé 1000 euros.
Attends, t'étais dans une situation de l'égalité là?
Je suis même pas sûre.
Quelle est la convention collective de cet endroit?
Ah, tu dois te donner le nom. Hein.
Ouais, bah non, c'est pas
non. MF Production,
ça va être repris dans toute la presse demain. Vas-y,
n'y allez pas.
Vous êtes toujours dans Cours d'honneur, Thomas est toujours à la régie et on écoute la reine de la pop, j'ai nommé Queen Bee. Voici Alien Superstar de Beyoncé.
Remain calm. Do not attempt
The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system.
I'm one of one. I'm number one. I'm the only one. Don't even waste your time trying to compete with me. No one else in this world can think like me. I'm twisted, I'll contradict it. Keep him addicted, lies on his lips, I lick it. Unique? That's what you are. Stilettos kicking vintage crystal off the bar. Category, bad bitch, I'm the bar. Alien superstar. Whip, whip. I'm too classy for this world. Forever I'm that girl. Beat you diamonds and pearl. Oh baby, I'm too classy to be touched. I pick them all in dust. I'm stingy with my love. You put on eyes on you when you perform. Eyes on I when I put on. Masterminded, haute couture. Label horse can't clock, I'm so obscure. Masterpiece, genius. Drip, intravenous. Patty cake on there is Tiffany. Blue billboards over the ceiling. We don't like playing. Always dreamed of paper planes. I'll hide when I rodeo. Then I come down and take off again. You see pleasure in my glare. Look over my shoulder and you ain't scared. The effect you have on me when you stare. Head on a pillow, hike it in the air. I'm too classy for this world. Forever I'm that girl. Beat your diamonds and pearl. Oh baby, I'm too classy to be touched. I pick them all in dust. I'm stingy with my ego will find bliss. Can't find an ocean deep that can compete with a cinnamon kiss. Fire beneath your feet, music when you speak, you're so unique. Unique. That's what you are. Lingerie reflecting off the mirror on the bar. Category, sexy bitch, I'm the bar. Alien superstar.
We dress a certain way, we walk a certain way, we talk a certain way, we paint a certain way, we make love a certain way. You know, all of these things we do in a different, unique, specific way that is personally ours.
C'était Queen Bee dans Cours d'honneur, et tout de suite...
C'était Queen Bee dans Cours d'honneur. Et tout de suite, nous avons un invité.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste. Mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
He created a man who became a monster.
Il est historien moderniste, spécialiste des relations internationales.
Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Lucien Belli.
Lucien Belli, bonsoir, bienvenue sur Cours d'honneur.
Bonsoir.
Comme l'a si bien dit Abel, vous êtes historien moderniste, spécialiste des relations internationales à l'époque moderne et diplômé de l'ENS Paris ainsi qu'agrégé d'histoire. Vous avez quand même un parcours assez incroyable et vous avez également été fait chevalier de la Légion d'honneur grâce à vos différentes études sur les relations internationales entre le 16e et le 17e siècle. À la Sorbonne, vous êtes professeur de relations internationales. Pour commencer avec un petit peu d'actualité, comme vous le savez, on peut trouver, les sources d'informations sont multiples et tous les titres varient d'une chaîne à l'autre. On peut notamment tomber, quand on zappe à la télé, soit sur l'appellation, je parle du conflit israélo-palestinien actuellement, sur l'appellation que je viens de donner, conflit israélo-palestinien, ou bien parfois sur guerre entre le Hamas et Israël aujourd'hui. Que convient-il de dire ?
Je pense que le plus simple, c'est de dire qu'il y a un conflit entre l'État d'Israël qui existe et une association qui a été qualifiée de terroriste, donc qui est un groupe qui domine une partie des territoires palestiniens, c'est-à-dire Gaza. Donc c'est un peu une façon de séparer les populations civiles de ce groupe qui domine par des moyens qu'on connaît mal et par la même d'essayer de limiter ce conflit à éviter d'en faire une guerre internationale.
Vous avez qualifié le Hamas d'organisation terroriste, et en fait la question qu'on peut se poser, c'est que la Palestine peut-elle vraiment revendiquer ses droits à l'international alors qu'elle est un État non membre de l'ONU, contrairement à Israël ? Par là, je veux dire que si punition il y a, Israël pourrait-il être inquiété pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, contre la Palestine, ou les victimes palestiniennes seront-elles considérées comme des dommages collatéraux d'une attaque israélienne contre le terrorisme ?
Ça, je ne comprends pas très bien votre question. Ce qui est la première chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un massacre particulièrement horrible avec des actes inqualifiables, et c'est de là qu'il faut partir. Hein. Donc l'attaque est venue de ce groupe qui est sorti de ses frontières et qui a ravagé en particulier des jeunes gens hein, qui étaient dans une fête, donc des populations qui étaient des populations civiles. Le reste, l'information est assez difficile à préciser, puisque les journalistes ne sont pas vraiment sur place, on dépend des sources locales, et en particulier palestiniennes, qui ne sont pas toujours très fiables, hein, puisqu'elles viennent essentiellement du Hamas. Donc, pour le moment, il est quand même assez difficile de préciser l'évolution des choses, et en particulier comment les événements vont évoluer. Vous voyez, aujourd'hui, il s'agit d'un conflit qui touche une partie du Proche-Orient, qui intéresse aussi une grande partie du monde international.
D'accord. Vous avez été professeur à la Sorbonne Université d'Abu Dhabi pendant une dizaine d'années. Certains cursus sont proposés à la fois en France et à Abu Dhabi. Quels seraient les avantages qu'un étudiant français aurait à aller à Abu Dhabi, contrairement à en France, qui est un lieu quand même assez éloigné ?
Ça, c'est une très bonne question, mais c'est un peu à vous, je pourrais la poser, parce que Abu Dhabi est une université indépendante. Hein. Elle a été créée avec la collaboration de la Sorbonne, mais c'est une université de droit émirati où les professeurs de la Sorbonne enseignent, mais d'une certaine manière, je vois mal, si vous voulez, l'intérêt, à mon avis, pour un étudiant d'aller faire ses études à Abu Dhabi s'il peut le faire en France. D'une certaine manière, c'est très coûteux. Hein. C'est un pays qui est très cher. C'est un pays aussi très particulier. C'est quand même au milieu du désert. C'est un pays qui est très agréable quand on est très riche. Hein. Quand on est, voyez, pakistanais et que l'on est taxi, c'est pas le paradis. Quand on est philippin et femme de ménage ou dame philippine, c'est pas le paradis. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas trop rêver. Alors, bien sûr, si vous avez beaucoup de moyens, il peut être intéressant, puis peut-être avec des bourses, puisqu'il y a des
bourses. Oui, il y a des bourses qui sont mises en place.
Ça peut être intéressant, mais vous voyez, il faudrait avoir l'idée de finalement de faire un métier lié aux Émirats et s'installer finalement aux Émirats. Alors ça peut être un passionnant, mais encore une fois, moi je voyais, c'est un peu la question financière qui m'effraie. Hein. Alors, il y a j'ai eu des étudiants devenus du Maghreb, par exemple. Je me souviens d'avoir des étudiantes algériennes, marocaines et tunisiennes. Donc là, elles ont des bourses, ça c'est des jeunes filles, elles avaient des bourses et d'une certaine manière, c'était intéressant pour elles d'aller à Abu Dhabi, puisqu'elles avaient ces bourses, ça leur évitait de venir en France d'une certaine manière. Mais vous voyez, c'est un peu là, l'obstacle linguistique aussi, financier, linguistique, social.
Même si les cours sont proposés de manière bilingue.
Moi, je fais des cours en anglais, par exemple. Vous voyez, de plus en plus, il y a beaucoup de cours en anglais dans les disciplines comme les disciplines de l'environnement, du droit, tout ça est en anglais, hein, donc il faut très bien maîtriser l'anglais. Alors, les Émiratis ne le maîtrisent pas toujours très bien. Moi, j'ai créé tout au tableau de manière à ce qu'on soit bien sûr qu'on était parti du même principe, parce que mon anglais n'est pas parfait, le leur n'était pas parfait. Donc on arrivait à travailler très bien, mais vous voyez, c'est quand même finalement un saut hein, dans l'inconnu. Ça peut être comme tout saut dans l'inconnu quand on part à l'étranger. Erasmus, c'était la même chose. Hein, quand j'ai commencé Erasmus dès le début, c'était pas si facile. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais les étudiants n'avaient aucune envie d'aller à l'étranger. Hein. Vous imaginez, vous parlez trois mots d'allemand et vous suivez des mots en allemand. Après, moi, vous voyez, dans ma discipline, c'était des textes en gothique, les malheureux, vous voyez, ils revenaient, ils avaient envie de se pendre. Hein, donc, vous voyez, on imagine aujourd'hui tout ça, c'était formidable. On le voit d'ailleurs dans ce beau film qui montre les étudiants en Catalogne, qui entendent des cours en catalan, donc ils n'ont jamais appris. Donc, c'est un peu la même chose. Mais en même temps, toute chose difficile, compliquée, vous me parliez tout à l'heure de gagner de l'argent. Mm-hmm. Si c'est très difficile, si on survit, hein, si on revient à peu près en état, c'est forcément formateur et on est plus fort. Hein, imaginez ce que c'est, même pour moi. Regardez, les Émirats, c'est loin. Hein, mm-hmm. C'est quand même des pays très différents. Nous sommes bien loin d'un certain confort européen. N'oublions pas que nous sommes relativement favorisés dans le monde.
Oui, et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce que vous avez dit par rapport... vous avez dit que tout dépendait du métier que l'on voulait faire plus tard. Par rapport à ça, quels sont les débouchés du droit, du master de droit international, relations internationales et diplomatie? Enfin, où est-ce que ça nous mène, en fin de compte?
Pour ce qui était d'Abu Dhabi, moi j'ai eu un peu tous les...
Que ce soit à Abu Dhabi ou en France...
Pas mal, comme en France, j'ai des étudiants d'histoire, donc je me pose des questions sur les bouchons d'histoire. Donc pour Abu Dhabi, c'était assez intéressant. D'abord, c'était plutôt des masters. Enfin, j'ai toujours eu des masters, donc c'était souvent des gens qui avaient déjà une carrière. Et une carrière à Abu Dhabi, dans le système Abu Dhabi, qui n'était pas tout jeune, qui n'avait pas vos âges. Je plaisante en disant que c'était finalement un directeur d'hôpital qui allait devenir directeur général des hôpitaux. Hein, vous voyez, parce que c'était le cousin de la belle-sœur. Donc c'est quand même un système qui n'est pas non plus très démocratique. Donc c'était assez agréable, hein, parce que vous voyez, c'est des gens posés, qui étaient bien installés. Nous, on a un petit bus hein, qui vient nous chercher. Ils ont des grosses BMW avec des chauffeurs. Donc, c'est pas tout à fait le même monde. Hein.
Oui.
Vous voyez, nous sommes un peu à Abu Dhabi, un peu comme Julien Sorel, vous voyez, quand on est un peu au bout de table. Hein. On est bien, mais bon, on n'est quand même pas au niveau de nos étudiants. Alors, j'ai eu une secrétaire d'État, par exemple, vous voyez, une jeune femme qui était secrétaire d'État, quelques princesses hein, aussi. Hein,
en ayant fait le master de droit international.
Oui. Alors, d'une certaine manière, vous voyez, c'était pour passer à un niveau, un autre niveau d'emploi. Ils avaient déjà des emplois, ils passaient à un autre niveau supérieur où il fallait avoir plutôt un master, hein, c'était selon une norme internationale. Des jeunes femmes aussi, beaucoup de jeunes femmes pour qui c'est important. Les études sont importantes. On échappe un peu, vous voyez, au rite ordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'on repousse un peu l'entrée dans le mariage, pour dire les choses. Donc c'est très, très important, les études. Et puis, c'est d'ailleurs, là, à Abu Dhabi, les femmes ont pas mal de poids hein, dans la politique ou dans l'administration. Donc, c'est très important pour l'évolution sociale et l'évolution historique de cet État qui a fait des grands progrès, d'une certaine manière. Vous voyez, en 40 ans, ça n'existait pas il y a 45 ans ou 50 ans. Et bref, là, vous avez une ville qui ressemble à New York. Donc, c'est très important. Et puis, beaucoup de métiers de diplomates. Vous voyez, c'est des personnes qui, un jour ou l'autre, seront... diplomate d'Emirati. Donc c'était vraiment leur idée d'avoir une culture générale pour finalement envisager avec du temps une entrée dans des postes à l'étranger. C'était vraiment ça qui était... Et il y avait également beaucoup, comme ça, toujours, c'est la grande fierté d'ailleurs des Émiratis, c'est beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier, enfin surtout du monde... il y a des Palestiniens, justement. Je crois, un jour, je pense que j'ai eu un étudiant israélien, mais c'était pas très clair, hein, mais il était israélien, on a probablement avec un passeport un peu différent, mais vous voyez, c'est très varié, des gens qui viennent des républiques de l'ancienne Union soviétique. Vous voyez, donc, c'est un peu aussi la culture, hein, la culture qui fait qu'on puisse aller au Proche-Orient, au Moyen-Orient.
Et du coup, pour finir, une question que nous posons à tous nos invités. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Ce qu'il y a de meilleur.
Ah.
Ce qu'il y a de meilleur en matière d'enseignement. C'est une vieille dame qui a sur elle le poids du passé, mais aussi la force du passé, hein, d'une certaine manière. Je pense que indéniablement, la Sorbonne Université attire des enseignants de très grande qualité, des étudiants de grande qualité aussi. Donc c'est un peu ce dialogue entre ces deux groupes qui font toute la richesse de l'expérience de la Sorbonne.
Merci beaucoup, Lucien Belli.
Merci beaucoup, Monsieur Belli, pour votre présence ce soir.
On a appris beaucoup, en tout cas, sur les Émirats. C'est peut-être que quelqu'un ici ira faire ses études aux Émirats.
Non, c'était vraiment très intéressant du côté d'Erasmus, parce que moi-même, je pars dans 2 ans en Erasmus. Donc, c'est vraiment super intéressant de savoir qu'on peut partir en Erasmus partout dans le monde. Et surtout que c'est une grande école et qui est très connue sur la Sorbonne, directement sur le site, ils en parlent de cette école-là, donc très intéressant.
Et si tu es intéressé, c'est ce qui compte. Mais maintenant, je crois que nous avons du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Moi, on vous fait visiter un lieu emblématique de la Sorbonne. Une visite radiophonique guidée par cours d'honneur.
Cette semaine, on vous emmène dans le lieu incontournable pour qui veut échapper au CM ou aux siestes intempestives. Les machines à café de la Sorbonne.
Mais bonjour, je m'appelle Ruben Zouz et j'étudie en philo en L3. Là, je vous emmène dans un endroit emblématique de Paris 4 puisque c'est la machine à café, là où on va chercher un petit peu le jus qui nous fait survivre. Là, on est dans le couloir, en fait, on sort de la bis, on se dirige vers la machine à café qui est vraiment à 2 pas de la sortie de la bis. Comme on peut le constater, à cette heure, il y a pas mal de queues. En même temps, on est dans le milieu universitaire, tout le monde passe son temps à boire du café. Je pense parce qu'on dort jamais. On dort pas trop, on est tout le temps dans les cahiers, les livres. Du coup, on est tous sous café, ouais. On peut dire ça. Le plafond est plus bas, en fait, que dans le reste de la Sorbonne. Et du coup, ça crée un peu une petite ambiance intimiste, quoi. Les murs sont gris, les toilettes sont juste à côté. Ça sent un petit peu le produit pour les toilettes. C'est assez sympa, il y a une bonne ambiance, quoi. Il y a pas mal de monde devant nous. Des gens qui cherchent leurs pièces, des gens qui ne savent pas comment la machine à café marche. Ça arrive très souvent. Ou alors la machine à café, mieux encore, qui bug ou qui ne donne pas de café ou on sait pas trop quoi, ou elle nous prélève 5 euros sur notre compte en banque alors qu'il y a marqué 40 centimes. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie des choses à gérer entre deux lectures.
Toi, combien de café tu bois par jour en moyenne?
En vrai, j'essaie de réduire parce que je suis même pas sûr que ça marche vraiment. Je pense que c'est vraiment plus un effet placebo. Mais je suis modéré. Je suis à peu près à 3-4 cafés par jour.
Qu'est-ce que vous choisissez ?
Un expresso, sans sucre.
Le mieux, je pense, c'est vraiment l'odeur, quoi. Après, moi, je prends le moins cher, perso. Je suis à celui à 40 centimes. Je crois qu'il y en a un autre à 60-70 centimes. Il est un peu plus corsé, celui-là. Ok, petit café.
Les machines à café de la Sorbonne, c'est vrai que
les machines à café de la Sorbonne, c'est vrai qu'on pourrait pas vivre sans. Et adepte de café, de chocolat chaud, de quoi ici? Dites-moi tout.
Alors moi j'avoue que j'ai eu une très mauvaise surprise la dernière fois. J'ai voulu prendre chocolat chaud à la vanille.
Oui.
Ne faites jamais ça.
C'était, des fois,
mais je sais pas, mais c'était absolument immonde. Vraiment, évitez ça. C'était okay. Non.
Pour moi, tout ce qui est autre que le café à la machine à café est par définition dégueulasse. Mais vraiment, il faut pas genre cacao. D'accord. plus fort,
attends,
vanille.
Que ton café préféré, c'est celui de la machine à café?
Non. Mais quitte à se confronter à la machine à café de la Sorbonne, on en reste au café.
Non mais en vrai les trucs genre le dilemme et tout c'est trop bon, hein. Je sais pas si vous avez goûté.
Non mais non,
vous allez dans...
mais non voilà, pas. Abel est dans la mauvaise catégorie, il va cliquer gourmand, sur là, caramel, vanille...
Abel avait du temps à perdre.
Alors mais vraiment, une fois, j'ai vu quelqu'un qui prenait une soupe.
Voilà, ils existent.
En plus c'était le matin. Enfin,
je... Reportage, hein. Moi je veux que tu le retrouves ce mec qui nous explique...
C'était Thomas. Bon, bah, continue à prendre du café. C'est vrai que c'est que 40 centimes, mais des fois, quand tu passes ta carte, il y a écrit crédit 8,48€. Moi, des fois, j'ai peur. Mais bon, c'est les aléas de la Sorbonne. En tout cas, il est déjà 20h40 sur Cours d'honneur et il est de retour pour son troisième album. Tout de suite, c'est Problèmes de riches de Josman.
Yeah.
Satiner le comptoir et marbrer le Dom Pérignon fait des bulles. Je regarde le monde à travers le ridicule, j'ai la vision et le recul. Paradoxalement, les mêmes qui te tournent le dos sont ceux qui t'enculent. J'ai les idées claires, j'ai les pieds sur terre, je veux pas marcher sur les rotules. Y'a personne que je supplie, y'a personne qui me commande, y'a personne qui me dit quoi faire. Chacun son temps, chacun son heure, chacun son tour chez le coiffeur. Choisis ton camp, soit on fait la paire, soit on fait la guerre.
La guerre.
Ma bitch a fini son verre, elle a pris ses affaires, elle veut faire un after. Elle a le physique, je lui enlève son lipstick, je lui mets sur du Netflix. J'ai des habits chics, les méga celia de fric qui met le sème au flic. Et même je les baisse, je suis comme la braise, comme la flamme au bout de mon stick. Je me suis ouvert le cœur, t'as planté la vis, t'es devenu un as de pique.
Il n'y a que Dieu que je crains, que le futur que je redoute. Je reviens de loin, je volais au Franprix, je volais au G20. Pour casser la croûte, j'y pouvais rien, c'était la fin. Je voulais faire partie de ceux qui goûtent. Je ne voyais pas l'ombre d'un doute. Je voulais la belle ville, les bijoux qui coûtent. Ça y est, je suis lassé de la quartier, de la hype, de la relie, j'attends la patek. Alhamdoulilah, comme on dit, Dieu merci. Avant, j'étais juste lassé d'être assez. Je suis impolitique. Je sais qu'ils feront rien pour les gens qui souffrent et qui suffoquent. Donc les lois qui font, on les foque. Ils ont du sang sur les mains. Moi, je remplis mon rôle pour les miens. Car rien n'est moins sûr que demain. Car rien n'est moins sûr que demain. Je suis serein, j'ai le venin. J'ai les crocs, les dents de requin. J'ai enlevé le smile de la face. Je sais pas si je préfère le silence, la zik ou le bruit du moteur qui ronronne. Mais le silence est bruyant, le silence est criant, le bruit de la violence qui résonne. Elle veut que je sois son homme, si elle est bonne, je lui donne. Je collectionne les sommes, j'ai le feu qui dégomme. J'étais mal le fun qui sonne, j'allume un cône, je m'isole. La tête qui déconne, je décolle, tout est monotone. On dirait qu'à trop tonne, y'en a qui nous quittent, je profite. Même si t'es chagrin, j'en ai des tonnes. Plus trop le cœur à la fête, tout part en sucette. On me dit que la vie est ainsi faite. Pour les miens, je reste à la vue. Pour eux, je pars à la soupe. Pour eux, je pars à la quête. Ma chérie, tes yeux de biche ne me font plus d'effet quand tu m'aguiches. Au pied du mur, au pied de la lettre, le seum ne s'enlève pas au pied de biche. Ce soir, je suis tête d'affiche. Impossible que je m'affiche. Envoie la quiche, mets plus de zéro sur ma fiche. Je remplace mes problèmes de pauvre par des problèmes de riche. Il n'y a que Dieu que je crains, que le futur que je redoute. Je reviens de loin, je volais au Franprix, je volais au G20. Pour casser la croûte, je pouvais rien, c'était la fin. Je voulais faire partie de ceux qui goûtent. Je ne voyais pas l'ombre d'un doute. Je voulais la belle ville, les bijoux qui coûtent. Ça y est, je suis lassé de la quartier, de la hype, de la relie, j'attends la patek. Alhamdoulilah, comme on dit, Dieu merci. Avant, j'étais juste lassé d'être assez. Je suis impolitique. Je sais qu'ils feront rien pour les gens qui souffrent et qui suffoquent. Donc les lois qui font, on les foque. Ils ont du sang sur les mains. Moi, je remplis mon rôle pour les miens. Car rien n'est moins sûr que demain. Je suis serein, j'ai le venin. J'ai les crocs, les dents de requin. J'ai enlevé le smile de la face.
C'était Josman sur Cours d'honneur.
Let's go.
C'est bientôt la fin de l'émission, mais j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose, le Dean. Une petite pause douceur, une touche de romantisme.
Mais Abel, voyons, tu n'oublies quand même pas Mélina et son invité poésie.
Je crois que la poésie sont des rêves de bonne qualité.
Il n'y manque que ma petite touche perso.
C'est l'art de rêver et de faire rêver aussi.
«
Et en ce froid et pluvieux mois de novembre, quoi de mieux pour réchauffer les cœurs et les esprits qu'un peu de poésie ? Aujourd'hui, Mélina, dans ta chronique Poésie en Sorbonne, tu reçois Ursula Utopia, un collectif qui prône la démocratisation d'une poésie vivante, scénique et pluridisciplinaire.
Oui, Lodine, Ursula Utopia, c'est la rencontre entre les textes de Mathieu Vivion, auteur, poète, performeur, et la musique de Francesco Beucci, guitariste, lors de performances poétiques et musicales autour de thèmes tels que la santé mentale ou le rapport à l'enfance et aux origines. Mathieu, Francesco, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans Cours d'honneur. Merci d'être là avec nous ce soir.
C'est nous qui sommes honorés.
Et nous de même. Vous dites vous-même que cette volonté de démocratisation de la poésie découle d'un besoin de poésie de plus en plus important aujourd'hui. Vous parlez même d'une, je cite, « précarité poétique ». Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que cette précarité poétique ? Puis nous dire pourquoi est-ce que, selon vous, la poésie est devenue un art absolument essentiel ?
Bah, essentiel, je ne sais pas. Nous, on n'est personne pour dire que la poésie est essentielle. En tout cas, il faudrait peut-être le demander à ceux et celles qui nous dirigent si la poésie ou la culture est essentielle. Et je crois que les signaux qu'on nous donne depuis quelque temps tendent à prouver le contraire. Moi, ce que je peux dire, ce qu'on peut dire par rapport à la précarité poétique, c'est tout simplement, je pense qu'il y a dans cette société, et encore une fois, je pense qu'on s'adresse aussi aux mêmes responsables, une nécessité pour les gens de pouvoir s'écouter. Je pense que les gens ont beaucoup de mal à s'écouter, à s'entendre parler et à pouvoir se répondre. Et je crois que il faut faire très attention à la parole. Quand on a la parole, il faut savoir l'exploiter. Et il y a peut-être une nécessité aujourd'hui de pouvoir dire des choses qui sont importantes pour la société. Et la précarité poétique, c'est aussi apporter du réconfort qui sont dans, aux gens, à celles, à tous, toutes celles et ceux qui sont en besoin de chaleur, d'humanité, de compassion, de tendresse. Et peut-être que ce qui est essentiel pour un artiste et pour un poète, c'est de pouvoir répondre à ce besoin-là.
Les textes que vous partagez portent sur des thématiques très personnelles, comme nous l'avons dit, la santé mentale et le rapport à l'enfance et aux origines, par exemple. En quoi ces thèmes sont-ils le moteur de votre inspiration et est-ce que vous pensez que la poésie est nécessairement une écriture de l'intime ?
Bah, quand on a la parole, il faut savoir aussi la libérer. Moi, j'ai, à titre personnel, fait une bouffée délirante il y a 8, 9 ans bientôt. Et je crois que le propre de la maladie mentale, et c'est en ça peut-être que c'est extrêmement intime et que c'est une écriture de l'intime, c'est que la maladie mentale, elle exclut beaucoup. Et je crois que quand on se sent exclu, ça marche aussi avec la précarité, on a beaucoup de choses à dire et on ressent énormément de choses. Et il y a cette volonté, en fait, finalement, ce désir ardent d'exprimer ce ressenti-là. Les traumatismes, les souffrances, et c'est ce qu'on veut nous partager, libérer cette parole-là autour des thèmes, voilà, de l'enfance, des rapports au père, des rapports à la maladie mentale, et je pense que ça, c'est absolument nécessaire, oui.
C'est une sorte de thérapie, finalement.
Oui, c'est une sorte de thérapie. Bon, moi, j'en ai fait 10 ans, alors je sais de quoi je parle. Mais voilà, il y a on le voit aujourd'hui avec la recrudescence des gens qui, des jeunes aussi comme vous, qui dans cette société ont besoin de parler, ont besoin d'avoir une voix. Et je pense que quand on tend vers une société qui tend à les taire, ces voix, que ce soit voilà, des voix souvent des opprimés, ça peut être des opprimés financiers, ça peut être des opprimés par rapport à la race, par rapport au genre, par rapport à toutes ces classes sociales de gens qui n'ont pas la parole. Il faut la leur redonner, voilà.
Le cœur de votre travail consiste à faire dialoguer la musique et la poésie, en considérant notamment la musique comme un langage au même titre que la poésie. En quoi est-ce que, pour vous, ces deux disciplines sont-elles complémentaires ?
Oui, bien sûr. Parce que là, à la fois, da, c'est possible que la musique, il est vissue, il est un peu comme un truc qui est un peu un tapis, non, de notre vie, un peu un soundtrack de notre vie. Mais en vrai, la musique, c'est une langue. Et comme la langue française, italienne, pour moi, ou l'anglais, etc., il va raconter des histoires et des émotions. Donc, l'idée de notre projet, c'est là, chercher de faire un jeu ensemble avec les mots qui te vont raconter une histoire, une émotion. Et en même temps, la musique, avec mon guitare maintenant, c'est de chercher de raconter la même histoire, mais dans un autre point de vue, notre vision plus personnelle pour moi et plus personnelle pour moi qui est pour les mots. Et donc, oui, là, ce sont deux disciplines qui, ensemble, sont poésie. C'est ça.
C'est une très très belle vision de la chose. En tout cas, moi, elle m'inspire beaucoup. Et vous avez choisi ce soir de nous performer en direct le poème France, Fronce. Et pendant que Francesco se met en place, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire ce sur quoi porte ce poème ?
Moi, je suis franco-algérien. Et être franco-algérien, ça veut dire plein de choses. Malheureusement, moi, j'ai eu une enfance où j'ai pu, comment dire, être un peu écarté de cette question algérienne de par mon éducation. Et c'est quelque chose que je redécouvre de façon assez récente et de façon assez intense. Et je crois que y avait une nécessité avec ce poème de parler de ce qui s'est passé entre la France et l'Algérie, des rapports parfois tendus, souvent un peu secrets. Et voilà, un peu de tendresse encore une fois entre ces deux pays.
Et nous écoutons maintenant France, Fronce en direct sur Cour d'honneur.
Algérie.
Merci, merci beaucoup, merci infiniment de nous avoir donné la chance de partager ce moment avec vous. Merci pour la sensibilité et les émotions.
Merci à vous.
On peut vous retrouver en mai prochain sur la scène des Trois Baudets pour la finale du championnat du monde des instants poétiques en librairie avec le roman de Mathieu, Le Sorcier Blanc, paru cette année, aux éditions du Penseur et toute l'année sur Instagram, @UrsulaUtopia. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous ce soir. Alors Abel, ça t'a plu ?
Alors non, c'était vraiment de très beau. C'était un jour on fera sauter toutes les chroniques et on n'invitera que les invités de Mélina qui. non, c'était vraiment super. Je pense que je peux parler pour tout le monde. Et puis c'est la première fois qu'on avait de la musique live dans le studio.
Grave,
et ça marche.
Ça change tout.
Et donc c'est bon, la prochaine fois, on fait un concert dans le studio. En attendant, nous avons une nouvelle chronique parce que toujours entre deux week-ends dans le sud.
Soi-disant au travail, mais plus souvent dans un bar.
C'est la chronique pavée de l'ami Thomas.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Oui, parce qu'il y a des tas de journalistes qui veulent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Les savoirs inutiles, donc complètement indispensables de Thomas. Chaque semaine, tu nous racontes une anecdote méconnue sur l'histoire de la Sorbonne. Pour ce nouvel épisode, tu nous narres l'histoire des presses de la Sorbonne.
Et oui, sachez, chers confrères, chers consoeurs, néanmoins chers ignares, que la première fois qu'un livre fut imprimé en France, ce fut à la Sorbonne, en 1470, dans les presses qui se trouvent sous nos pieds. Et oui, Paris reçut cet art presque divin inventé en Allemagne 2 ans après la mort de Gutenberg, qui était né lui-même à Mayence.
1438, Strasbourg. Des témoins aperçoivent une mystérieuse machine cachée au fond de l'atelier d'un certain Gutenberg.
À cette époque-là, à peine une vingtaine d'ateliers typographiques existent en Europe et la France est le deuxième pays après l'Italie à importer cette technique. C'est à deux professeurs de la Sorbonne que l'on doit l'arrivée de l'imprimerie en France. Rendons leur hommage ce soir dans Cours d'honneur. Guillaume Fichet, c'était un Savoyard, et Jean Heinlein, originaire de la région rhénane. Deux amis à l'apogée de leur carrière de théologien, puisqu'à l'époque on était professeur de théologie, et tous deux étaient deux amis dans la vie. Tous deux avaient ressenti l'intérêt, pressenti cette utilité de la reproduction typographique des textes qui permet de disposer de copies en plus grand nombre, à moindre coût et en diminuant les risques d'erreurs propres à la pratique de la copie manuscrite. Ils demandent de l'aide et font venir 3 typographistes, Michael Friburger de Colmar, Ulrich Gehring de Bergmünster du diocèse de Constance et Martin Kranz, sans doute originaire de la même ville. Et alors ensemble, ils vont monter la terrible machine dans le collège de la Sorbonne, dans un cloître fermé par 2 portes que rames de papier, casse de caractère, presse typographique et matériel de fonderie vont trouver protection derrière ces 2 portes. Le premier livre sort de leur atelier à l'automne, c'est-à-dire à peu près à cette période de l'année.
Alors maintenant, je prends une feuille, voilà, on met sous presse et on presse.
La capitale leur doit un in-carto, un modeste, 118 feuillets. Il est tiré à 100 d'exemplaires, dont l'impression a réclamé au total à peine 6 rames de papier. Alors le texte était un recueil de lettres latines inédites, les Epistolae, rédigées 40 années plus tôt par l'humaniste Gasparino Barzesa. Et non Abel, je te vois, il ne s'agit pas d'une marque italienne de café ou d'un établissement servant de l'alcool tout en diffusant Balavoine. Tenez ce nom, Gasparino Barzesa.
qui a été le premier auteur imprimé en France. Au total, 22 livres sortiront des presses de la Sorbonne. Première imprimerie de France.
Première imprimerie de France sous nos pieds. J'espère que vous avez bien retenu le TD de cette semaine de notre cher Thomas.
Le petit cours, là, vous le souvenez. Barziza, ça va, ça vous rappellera quelque chose.
Je pense que tout le monde est unanime pour signer la pétition pour que Thomas ne chante plus jamais.
Surtout pas du Balavoine. Mais à l'applaudissomètre, qui t'a trouvé ça marrant quand Thomas a galéré à prononcer les villes allemandes?
Ok. Je vous retiens tous la prochaine émission.
C'était super.
Vous allez voir.
Et comme quoi, vraiment, il y a mille et un sujets sur la Sorbonne et sur l'histoire de la Sorbonne. C'est vraiment très intéressant.
Et maintenant, une chronique qui raconte l'histoire des grands personnages de la Sorbonne.
Pour vous, les futurs grands personnages de la Sorbonne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Aujourd'hui, Louane, tu nous parles de Richelieu.
Et oui, parce que plus que le fameux amphi et ses bancs très inconfortables, Richelieu, c'est aussi un homme qui a joué un certain rôle dans le façonnement de la Sorbonne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors pour ceux d'entre nous qui ne seraient pas historiens, on peut faire un petit point. Retour en 1585 à Paris, où naît Armand Jean du Plessis de Richelieu, dit le cardinal de Richelieu, cardinal, duc de Richelieu et duc de Fronsac. Rien que ça. C'est un ecclésiastique et homme d'État français. Son plus gros accomplissement dans la vie, globalement, ça a été d'être principal ministre de Louis XIII. Il a d'abord été évêque de Luçon, et en faisant mes petites recherches, j'ai compris que le type avait un petit caractère, puisque l'historienne Françoise Hildesheimer le présente avec ces mots, je cite, « Ce névrosé dont l'hypersensibilité aiguë, la tension nerveuse extrême, les accès incontrôlés de colère, de larmes, de mélancolie, de dépression même, sont l'eau quotidien. » Donc c'est là qu'on commence à voir la ressemblance avec les étudiants en lettres de la Sorbonne. En 1607, Richelieu se fait accueillir comme hôte et sociétaire du collège de la Sorbonne. Il en devient très rapidement proviseur. Et donc c'est là que la Sorbonne est reconstruite par l'architecte Jacques Lemercier à la demande du cardinal, qui en devient proviseur en 1622. Et donc avec Richelieu, le collège de la Sorbonne médiévale fondé par Robert de Sorbonne disparaît. Les bâtiments sont totalement refaits, reprenant l'architecture du début du XVIIe siècle, pardon. À cette époque, les bâtiments datant du XIIIe siècle sont largement délabrés. Le cardinal se lance dans la reconstruction. Il commande alors les travaux qu'il finance en totalité, plus de 500 000 livres à l'époque. La raison principale étant que le rôle des collèges avait évolué. On était passé d'un simple gîte à l'attention d'une vingtaine de pensionnaires au siège d'une importante bibliothèque et à un lieu d'enseignement. Richelieu, face à l'urgence des travaux, agrégea deux collèges voisins à la Sorbonne, ceux de Calvi et des 18, et fit reconstruire des bâtiments dans un style classique. C'est d'ailleurs à l'emplacement du collège de Calvi que la chapelle de la Sorbonne a été bâtie. En 1627, François de Harlay, archevêque de Rouen, pose la première pierre. À cette même date, les plans de la nouvelle Sorbonne sont totalement validés, et quels plans ! Ceux qui nous font monter des centaines de marches par jour et nous font perdre dans 35 couloirs. Ces nouveaux bâtiments étaient beaucoup plus grands que la Sorbonne médiévale et l'agrandissement a gagné sur tout le quartier. De nombreuses expropriations furent réalisées sur les rues de Poiré, Saint-Jacques et des Cordiers. Pour faire court, si le bâtiment de la Sorbonne-Mère est si grand et surtout très mal conçu, c'est à Richelieu et à son architecte qu'il faut s'en prendre. Notre bon Richelieu décède en 1642, les travaux de la nouvelle Sorbonne n'étaient pas achevés, mais c'est son héritière, la duchesse d'Aiguillon, qui dirigea la fin de la construction de la maison et de la chapelle. Ensuite, les docteurs du collège prirent en charge la reconstruction de la bibliothèque en reprenant les plans de Jacques Lemercier. Et c'est donc là que s'arrête l'histoire de notre Richelieu, qui est d'ailleurs inhumé dans la chapelle de la Sorbonne. D'ailleurs, à l'époque, l'annonce de sa mort, c'était un petit peu comme la finale de la Coupe du Monde en 2018, parce qu'il faut rappeler que le type était quand même sacrément impopulaire. Mais il faut reconnaître qu'il a fait un beau boulot à la Sorbonne, et surtout, dernier fun fact et pas des moindres, c'était un très grand fan de chats, tellement qu'il avait fait installer une chatterie au palais cardinal. Et il possédait 14 chats, dont les noms sont très drôles et sont répertoriés sur sa page Wikipédia pour ceux que ça intéresse.
Eh bah super, mais
moi,
ce...
Moi, je veux le nom des chats.
Il y en avait plein, il y en avait 14.
14 chats, et tu dis une chatterie ?
Une chatière.
Une chatière.
On a une nouvelle chocolatine. On a une nouvelle chocolatine.
Et c'est déjà la fin de cet épisode de Cours d'honneur.
Déjà, on s'amusait bien.
Ah oui, et oui. Surtout Châtrie, Châtière, waouh.
Moi je veux savoir.
Toi t'es team Châtrie, Châtière
en fait. Je suis team, bah en vrai je suis team Châtière, hein. Châtrie, première
attention,
fois que j'entends.
On va rattraper le débat sur les machines à laver. Hein.
Mais ne t'inquiète pas Abel, dans 2 semaines nous serons à nouveau là. Et si, comme Abel, vous ne supportez pas d'attendre, vous pouvez nous réécouter sur les réseaux et les plateformes.
Merci à toute l'équipe Mélina qui vient de s'en aller, mais on la remercie.
Merci Victoire.
Mais avec plaisir, merci à vous.
Merci Marine d'être venue.
Et bah de rien.
Merci Louane.
Merci à vous et à bientôt.
Merci beaucoup Maëlys pour ton édito.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et bravo à notre nouvelle recrue pour ses premiers pas à Radio Sorbonne. Merci Thomas.
Ouais, merci, super les gars, vous me gardez en stage.
Peut-être. Si tu chantes plus, on te garde.
Allez, je vous amène le café.
On remercie aussi Radio Campus et le service culturel pour leur soutien.
Retrouvez-nous la semaine prochaine en direct à Jussieu pour la conférence Sound. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous.
Oh, c'est une performance.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.